Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Bonjour Denis Knopfler, vous êtes aujourd'hui professeur honoraire au Collège de France où vous avez enseigné l'épigraphie et l'histoire des cités grecques pendant 11 ans. Vos cours ont marqué les esprits de tous vos auditeurs d'une science a priori aride. Vous avez fait une source de connaissances en mêlant l'érudition la plus exigeante, rigoureuse et même sévère avec une liberté forte, une imagination vive et une bonne dose d'humour. Vous avez transformé l'histoire de la Grèce antique en une palpitante enquête savante. Vous avez d'ailleurs résolu bien des énigmes. Dans votre tout dernier cours, vous avez eu l'audace de prendre pour guide une œuvre littéraire, celle de Marguerite Yourcenar et son fameux livre « Les mémoires d'Adrien » paru en 1951. Vous avez montré à quel point Marguerite Yourcenar avait fait plus que s'informer. On a découvert grâce à vous qu'elle avait conduit sur le sujet de nombreuses recherches approfondies avec bien plus de justesse que nombre d'historiens de son temps. Et vous en avez profité pour donner un cours intitulé « L'empereur Adrien et les cités grecques, état des lieux après un demi-siècle de découvertes épigraphiques exceptionnelles ». Alors j'aimerais vous demander des nouvelles de vos travaux depuis la fin de vos cours en 2014. Vous venez de publier, non pas sur la Grèce, mais autour d'une rencontre occultée en Pays de Vaud au début du XXe siècle. Nous allons évidemment parler de ce livre récent. Mais vous nous aviez laissé sur des énigmes non encore tout à fait résolues. En effet, était parue en 2000 la somme de Christian Habitsch sur Athènes hellénistique que vous avez traduit avec votre épouse Martine Knopfler. Après un incendie, Les Belles Lettres publie le livre en 2006 avec de nouvelles mises à jour. Puis, vous avez donné 3 ans de cours entre 2010 et 2013 pendant lesquels vous nous avez parlé des nouveaux développements qui surgissait presque chaque semestre sur l'histoire des institutions et des cultes d'Athènes pendant la période hellénistique et qui venait compléter, réajuster ou même parfois contredire les grandes avancées de Christian Habitsch. Donc tout cela allait très vite. Quoi de neuf, Denis Knopfler?
Eh bien, d'abord, j'aimerais vous remercier de m'accueillir une dernière fois ici. J'en suis extrêmement honoré et heureux. Vous avez très, très bien rappelé sur quoi j'ai terminé mon enseignement, les mémoires d'Adrien. J'espère y revenir un jour prochain, mais pour le moment, c'est un sujet que je laisse reposer quelque temps, car il y a des choses plus pressantes, on y reviendra certainement. Et il est vrai que Athènes reste un de mes sujets de prédilection, même si je ne me suis jamais considéré comme un spécialiste absolu de l'épigraphie attique, comme on dit, de cette masse d'inscriptions si riche à tant de points de vue. Je suis peut-être d'abord un homme des environs d'Athènes, de l'île de Bé, où nous continuons nos travaux sur la découverte du sanctuaire d'Artémis à Marinthos, chaque année, cette année encore. Et puis, il y a la baie aussi, parce que je suis un béotien, si c'est avouable. je continue aussi avec grand intérêt, en vue de ce dont on parlera peut-être un instant, c'est l'édition de ce livre neuf de Pausanias sur la baie aussi. Mais alors, Athènes reste effectivement un sujet d'intérêt majeur pour moi, en fonction de la publication ou de la réédition de nombreuses inscriptions ces dernières années qui m'incitent à reprendre des textes parfois très connus, mais où précisément j'estime que les derniers éditeurs n'ont pas su voir quelquefois des points extrêmement importants. Je peux vous donner un exemple,
oh,
si
oui,
vous
le
souhaitez. Une inscription parmi les plus célèbres d'Athènes, sans contredit, c'est un règlement, dit règlement des petites panathénées, donc la grande fête en l'honneur d'Athéna, patronne de l'Acropole, un texte des alentours, disons, du début de l'époque d'Alexandre le Grand, vers 335, et c'est un règlement dont la partie essentielle est connue depuis très longtemps, puisque c'est presque au début, de tout début des fouilles de l'Acropole, dans les années 1840, vous voyez, donc un texte qu'on connaît depuis plus de 150 ans, qui s'est enrichi d'un fragment dans l'intervalle, mais dont il n'y a pas à parler ici. Très souvent, un texte très souvent traduit, commenté, parce que c'est pratiquement le seul document qui nous informe réellement sur le déroulement de cette procession solennelle. Et surtout, l'élément essentiel de toute fête grecque, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice qui se décompose en diverses parties. Or, sur deux points, je crois pouvoir, deux points au moins, faire une avancée dont on verra bien comment elle est accueillie par les spécialistes, mais j'ai une certaine confiance. Ce sacrifice, en effet, se décompose en deux parties essentielles. Il y a d'abord toutes sortes d'opérations préliminaires. Quand la procession entre, monte sur l'Acropole, passe les propylées avant d'arriver aux abords du Parthénon, on sacrifie deux choses. Le texte est mutilé et il nous laisse sur notre faim, sur un point essentiel, parce qu'on nous dit il faut sacrifier les deux au féminin. Les deux au féminin. Mais les deux quoi ? Hein ? Eh bien, depuis 150 ans, on restitue tout simplement le mot sacrifice. Il faut, si vous voulez, accomplir les deux sacrifices. Mais je montre que cette restitution ne tient pas. Je ne veux pas vous faire ici une explication dans le détail, mais elle est même contraire à la place disponible dans cette stèle extrêmement soignée dans sa confection. Il faut restituer en réalité les deux brebis. Tas duo arnas, c'est-à-dire qu'on a la mention des deux bêtes qu'il fallait immoler en priorité avant le grand sacrifice. Et c'est d'autant plus intéressant que on peut retrouver, en quelque sorte, l'écho de ce sacrifice préliminaire en deux temps sur la frise du Parthénon. Vous savez, la grande frise ionique,
mais oui,
dont la plupart des éléments se trouvent au British Museum, mais l'élément qui m'intéresse ici, la représentation précisément de moutons qui ne sont pas des béliers, contrairement à ce qu'on a cru, parce qu'ils ont des cornes. Mais en réalité, il y a, et en Grèce en particulier, des moutons qui sont munis de cornes, y compris les femelles. Donc, à Athéna, on ne sacrifie, et des textes le disent, on ne sacrifie que des femelles, quelle que soit l'espèce animale. Or, cette plaque, qui est un des ornements du musée de l'Acropole, puisque c'est un des rares éléments conservé à Athènes même, hein, et non pas en copie seulement, représente deux brebis qui étaient sacrifiées en petit comité, si l'on peut dire. C'était un sacrifice destiné aux seuls magistrats. Et aux processionnaires, pas à tous ceux qui participaient à la procession, mais vraiment à ce qu'on peut appeler les processionnaires, donc des officiels, qui recevaient des parts de ces deux moutons. Et c'était un sacrifice qu'on a souvent qualifié, mais de manière absurde, de non-démocratique, comme si les magistrats n'étaient pas démocratiques. Et ils sont élus, évidemment, on leur fait un sacrifice en particulier. Bon. Ça, c'est le premier élément. L'autre, et peut-être plus important, c'est le grand sacrifice. Le sacrifice qu'on appelle hécatombe. Hein. En principe, sans vache, pas des bœufs, non, des vaches. C'est au fil au féminin, c'est très clair dans le texte. Sans vache, qu'on achète avec un financement qui est bien prévu à l'avance et qui est probablement même la cause de ce nouveau règlement, parce que la fête était beaucoup plus ancienne en réalité, mais on la met à jour en fonction d'un financement nouveau. Et
il y aura là nécessairement un partage, ce qu'on appelle une créanomia, le partage des viandes, un moment essentiel de la vie athénienne. Comment va se faire ce partage? C'est quand même pas une mince affaire. D'abord, on constate que les viandes, après le sacrifice, après l'immolation, vont descendre de l'acropole. On ne va pas faire un boucherie et banquet sur l'acropole. On redescend dans la ville basse, à proximité de l'agora. Et comment va-t-on opérer le partage? C'est une question délicate. On a restitué le texte depuis un siècle, en l'approuvant de tous côtés, en considérant que c'était une restitution certaine. Je montre, je crois, de façon assez convaincante, d'après quelques collègues, bien intentionnés, la restitution est fausse, que l'on a cru pouvoir établir que ce serait en fonction de la participation de chaque dème ou de chaque membre des dèmes, c'est-à-dire des petites communautés de l'Attique, il y en avait à peu près 150, que donc le partage serait en quelque sorte la récompense pour la participation à la procession. Je crois que c'est une idée fausse, une idée un peu évangélique, si vous voulez, mais qui est anachronique. En réalité, ce que le texte dit clairement, c'est que les dèmes, effectivement, vont être le cadre fondamental du partage. Ce ne sera pas un partage individuel. Ce n'était pas possible. Il y avait quand même 20 000 citoyens. On n'allait pas pouvoir découper 20 000 tranches. Non, on nous dit le partage se fera en fonction du nombre de conseillers, ça c'est moi qui retrouvais le terme parce qu'il n'est pas dans le texte, de nombre de conseillers que chaque dème, ekastos ou demos, fournit. C'est-à-dire, c'est le modèle politique du Conseil des 500 qui était composé de conseillers dont le nombre variait à la proportionnelle, si vous voulez.
C'est ça, la proportionnelle.
Donc on applique, et je crois que c'est un peu une révolution, parce qu'on voit qu'on applique à la sphère religieuse un cadre exclusivement politique. On plaque le politique sur le religieux, qui était la seule façon raisonnable de faire un partage aussi exceptionnel dans l'année. Voilà, donc un exemple de cette nécessité d'un examen critique des textes les plus connus, les plus traduits, les plus commentés. Il faut les regarder avec un œil neuf.
Athènes, en fait, fournit énormément de documents en permanence, on pourrait dire.
En permanence, même si actuellement il n'y a pas de grandes fouilles. Les fouilles de l'Agora sont un peu envieuses. Il n'y a pas de fouilles sur l'acropole, et pour cause actuellement. Mais dans la ville d'Athènes, par toutes sortes de trouvailles fortuites, des textes viennent au jour, et tout récemment encore, on a eu des publications qui enrichissent notablement notre connaissance des institutions, par exemple, de l'époque hellénistique, à proprement parler. Surtout de l'époque hellénistique, c'est-à-dire des 4e, 3e, 2e siècles, et sans oublier l'époque romaine, qui a été aussi, après un creux d'un siècle, qui a été quand même aussi après assez prospère, à l'époque d'Adrien précisément. Athènes et Adrien, c'est tout un monde. Ce que je souhaite faire, avec la collaboration d'un collègue de l'École pratique des hautes études, c'est de réunir mes travaux sur Athènes, qui sont relativement nombreux ces dernières années. J'en ai plusieurs qui sont parus ces tout dernier temps, de les réunir en un volume aux éditions des Belles Lettres, de façon à ce que on puisse les consulter plus aisément et qu'ils soient pourvus d'un index, que ce soit plus commode. On pourra les trouver plus aisément que, si vous voulez, perdus ou isolés dans des revues spécialisées ou dans des ouvrages collectifs. Quand on a un certain âge, on est amené à publier dans des recueils dits « mélanges » en l'honneur de tel ou tel collègue. C'est très bien, mais il est vrai que ça n'est pas très favorable à la diffusion de ses propres travaux. Et je pense que c'est rendre service que de permettre plus commodément, grâce à des index notamment, et grâce aussi à un arrangement qui soit logique, notamment chronologique, de faire quelque chose qui, je tiendrai à le dire, n'a pas l'ambition, vous évoquiez tout à l'heure l'Athènes hellénistique de Christian Habisch, qui est un monument, et qu'il n'est vraiment pas temps de remplacer, même si, forcément, avec les nouvelles découvertes, il y a des éléments
qui ont bougé,
qui rectifient, qui surtout enrichissent plus qu'ils le rectifient. Alors, mon ambition n'est certainement pas, car je ne me voue pas de façon entière et complète à Athènes, je laisse ça à d'autres, mais un recueil complémentaire, je pense pouvoir dire qu'il serait... Il serait utile à la communauté scientifique et au-delà, peut-être à toute personne, soit curieuse en général, soit qui, ayant pris, comme vous me le disiez avec tant de gentillesse, pris quelque plaisir à m'entendre sur Athènes, voudrait retrouver, parce que presque tout ce que je donne actuellement, c'est d'une manière ou d'une autre l'écho et l'aboutissement de choses que j'avais présentées, soit dans le cours, soit pour ce qui est des documents dans le séminaire. Et je me suis laissé un temps de réflexion pour publier telle ou telle partie de ce qui m'apparaissait comme le plus intéressant, le plus original. Je n'aime pas répéter ce qui est connu. Mon principe est que, en bien ou en mal, j'essaye d'innover. J'ai d'innover, de critiquer notamment les restitutions, d'en présenter de nouvelles, car sur ce point, j'ai l'impression qu'il y a un certain déficit de la part des épigraphistes, notamment anglo-saxons, qui s'occupent avec beaucoup de mérite et qui font des recueils très très soigneux, mais qui ne sont plus nécessairement à même de produire des restitutions nouvelles, originales.
Attendez, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les archéologues anglo-saxons, pour l'instant, sont plutôt... alors, sont plutôt quoi?
Archéologiquement, ils font des choses extraordinaires. Je parle de l'aspect épigraphique. Et ils font des recueils, notamment sous l'égide, parce que tout cela est international, sous l'égide de l'Académie de Berlin, le grand corpus des inscriptions grecques.
En latin, c'est ça?
Alors, en latin, avec des commentaires qui sont forcément très réduits, puisqu'on ne peut pas les développer en latin. Ils présentent des textes qui sont propres, si l'on veut, qui sont bien réfléchis, qui sont munis de tout ce qu'il faut pour... Mais je constate que depuis un certain nombre d'années, par un excès de prudence, par un manque peut-être d'audace... ou parce qu'ils s'intéressent davantage à des aspects plus techniques de la présentation des inscriptions, parce qu'ils s'intéressent aussi à des aspects statistiques, c'est frappant, n'ont plus peut-être le goût de trouver, sur la base d'une méthode comparatiste en quelque sorte, avec d'autres textes qui se rapprochent, le goût de trouver des restitutions nouvelles que l'on peut justifier hein, par des exemples, par la logique interne. Et ça, c'est un des aspects qui me semble les plus intéressants de l'épigraphie. Et je suis redevable de cela à mes maîtres, notamment au grand épigraphiste français Louis Robert, qui savait restituer. Aujourd'hui, on est un peu en retrait par rapport à ce...
Vous voulez dire que l'archéologie, l'épigraphie... Et les antiquisants, en général, manquent d'imagination.
Écoutez, dire qu'ils n'ont pas assez d'imagination pourrait
être une qualité, bien sûr.
Être une qualité, parce qu'il en faut, il n'en faut pas trop.
Oui, hein, mais il en faut un peu.
Il en faut quand même un peu, quitte ensuite à l'encadrer très sévèrement et à se critiquer soi-même. Mais je ne conçois pas qu'un historien ne puisse être dépourvu d'une force imaginative pour voir ce qui a pu être et ensuite vérifier si les sources dont il dispose autorisent telle démarche, telle hypothèse. Et dans un texte, il faut savoir jusqu'où on peut aller, trop loin, disons, d'introduire, si on a de bonnes raisons, la lecture qui... Il ne s'agit pas simplement d'orner et de boucher des trous. Hein, parce que ça ne sert à rien de boucher des trous. Il faut boucher des trous, il faut combler des lacunes de manière significative. C'est-à-dire que ce que vous introduisez est justifié en raison et va apporter un éclairage nouveau sur l'ensemble de la pierre. Sans ça, ça ne sert à rien. Certains épigraphistes français disaient avec beaucoup de justesse et d'humour, il ne faut pas faire du thème grec. Il ne faut pas, c'est-à-dire, faire de la traduction, pour remplir des... Ça, c'est, on peut toujours le faire. Il faut trouver la solution. Et dans certains cas, il vaut mieux se retenir. Elle n'est pas à notre portée, sauf jusqu'à découverte d'un nouvel élément. Il faut de la retenue. Mais par ailleurs, il ne faut pas non plus déconstruire, comme on le fait aujourd'hui, sous prétexte que ça n'est pas totalement assuré. Il faut une démarche plus audacieuse, quitte à courir le risque d'une réfutation, oui.
Non, mais surtout, je veux dire, c'est la vie de la pensée, la réfutation.
Oui. Il me semble que c'est un des éléments les plus excitants de ce travail. C'est de savoir jusqu'où on peut aller, d'innover. Au fond, c'est de faire une découverte alors qu'il n'y a apparemment pas d'éléments nouveaux. Parce que quand vous avez une inscription inédite à publier, eh bien oui, vous taillez dans le neuf. Elle est nouvelle, personne ne la connaît. Ce que vous apportez est forcément bienvenu. Que l'inscription soit bien ou mal publiée, il y a un élément nouveau. Mais peut-être, et c'est actuellement ce qui m'intéresse le plus, c'est d'apporter du nouveau par la critique. Par la critique et les éléments qui sont à disposition, mais dont on n'a pas su voir ce qu'il pouvait apporter.
Oui, comme typiquement l'exemple que vous donniez au début de cet entretien,
voilà,
les brebis sacrifiées.
C'est quand même extraordinaire qu'on ait ce texte depuis 50 ans, qu'on ait un accusatif, on a le verbe sacrifier, on sacrifie les deux. Un de mes collègues avait suggéré qu'il fallait restituer « on sacrifie les deux vaches ». Mais il a convenu que c'était impossible parce que cette restitution-là, matériellement, ne convenait pas. Je ne veux pas entrer dans les détails. Et que de toute manière, il était un peu absurde de dire « les deux vaches » puisqu'on voit que, dans la suite du texte, le grand sacrifice que l'on organise sur le fond, les fonds nouveaux, il est constitué de vaches.
Oui. Hein.
Et il est, donc, on ne va pas séparer ces vaches du reste. Il faut un autre bétail. Et en réalité, j'ai pu montrer qu'on avait des témoignages qui attestaient que pour un sacrifice sur l'Acropole, à Athéna, quand on sacrifiait des vaches, il fallait toujours sacrifier aussi un élément de petit bétail. Donc c'était une espèce de complément. Ici, c'est un complément préliminaire, en quelque sorte. Mmh. On commence par cela, on fait ce petit sacrifice en deux parts et on se le partage entre officiels. On ne donne rien aux citoyens. Ça a pu scandaliser des commentateurs qui considéraient que les Athéniens n'avaient pas pu se contenter des restes. En réalité, on fait un autre sacrifice, beaucoup plus considérable, et là, les citoyens se partagent la viande, la créanomia, la distribution, mais ils le font à travers leurs institutions politiques, c'est-à-dire ces dèmes qui étaient de dimension très variable. Et donc, on pouvait donner à un dème une part de viande, et ensuite le dème se débrouillait entre les citoyens, et on pouvait donner à un autre dème 22 parts de viande, parce que la population était
plus nombreuse,
voilà. Et que ce dème-là fournissait, si l'on peut dire, 22 conseillers au conseil de la cité, au conseil des 500. Donc, l'application assez remarquable du principe de proportionnalité, qui est, à mon avis, une des grandes inventions de la démocratie grecque. Et je serais tenté de penser que c'est peut-être la grande invention de la démocratie grecque, plus que l'Assemblée du peuple, qui n'est pas nécessairement... démocratique. Mais le Conseil des 500, représentant d'un territoire civique de façon très proportionnelle, me semble une grande acquisition pour l'avenir de
Donc,
la démocratie.
Donc, deux grandes acquisitions de la démocratie grecque, le fédéralisme sur lequel vous avez fait un cours formidable, et puis effectivement la proportionnelle.
Les deux sujets se rejoignent d'ailleurs.
Absolument.
Hein, parce que le fédéralisme, c'est aussi l'application d'une certaine règle de proportionnalité.
Vous aviez travaillé sur la patrie de Narcisse de Nick Knopfler.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette patrie de Narcisse? Vous avez fait un très beau livre
sur la
question.
La patrie de Narcisse est évidemment un titre un peu surprenant, parce que personne ne songeait à, même en pensant à ce personnage relativement célèbre de Narcisse. Et j'ai essayé de montrer que Narcisse était un personnage totalement implanté dans la Grèce, que c'était pas une espèce de héros mythologique qui flottait dans une espèce de d'espace continu. Non, c'était un héros spécifique, à la fois de la Béotie, mais j'essaie de montrer dans ce livre que sur la base d'inscriptions, car je suis resté épigraphiste aussi dans ce...
parler les pierres.
Et elles parlent aussi, elles pourraient parler sans moi, mais faut-il encore les
écouter.
Les trouver d'abord, parce que j'en ai trouvé une personnellement, et montrer qu'il y avait là la preuve, ce qui n'avait jamais été constaté, que ce héros Narcisse, connu seulement par nos textes, par Ovide en particulier, les Métamorphoses, comme un héros tardif relativement dans la mythologie, que en réalité on voyait que son apparition, et je dirais même plus que cela, son culte, c'était pas une simple figure mythologique, c'était ce que les Grecs appellent un héros, c'est-à-dire un démon, une figure divine, enfin d'une espèce peut-être un peu inférieure, mais qui appartient d'une certaine manière au monde divin et qui mérite un culte, qui a une puissance, parce que on avait, à partir de ce nom de Narcisse, créé dans la cité d'Érythrée, au moment où on installait la démocratie, on avait donné le nom d'une des subdivisions de la cité démocratique, ce qu'on appelle tribu, mais c'est un mot qui évidemment risque d'engendrer un peu la confusion, ce ne sont pas des tribus au sens ethnographique du terme. Bon, des subdivisions, on lui a donné le nom de Narcitis, hein, la tribu de Narcitos, c'est-à-dire Narcissos, c'est une forme dialectale tout à fait normale, ce qui prouve qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, un demi-millénaire avant Ovide, il y avait ce héros Narcisse, dont j'ai essayé de montrer qu'il avait un lien plus particulier avec cette déesse Artémis dont nous recherchons le sanctuaire dans un lieu qui s'appelle Amarintos, un vieux toponyme pré-hellénique. Donc tout ça nous ramène à une époque extrêmement, on peut dire, pré-hellénique. Hein. Donc avant même l'installation des Grecs sur ces lieux, il y avait déjà des toponymes, et il y avait déjà une forme de mythologie qui a été empruntée, assimilée, transformée ensuite par eux.
Denis Knopfler, vous aviez également fait un cours magnifique sur Pausanias, le Périégète et les cités de la Béotie antique. Alors, c'était en 2004-2007, trois années de cours, hein, sur les voyages de Pausanias, donc ce voyageur, un touriste savant en quelque sorte du deuxième siècle de notre ère, qui nous a laissé une description de la Grèce en 10 livres. Donc vous étiez en train de republier au fond cette description de la Grèce parce que vous pensiez que le montage des livres était faux.
J'ai été chargé par les éditions des Belles Lettres de donner l'édition et le commentaire de ce livre neuf de la périégèse de Pausanias, qui est la description assez détaillée du pays béotien, des villes et surtout des cultes béotiens. Pausanias avait un penchant très net pour tout ce qui était le plus vénérable, ancien, etc. Et alors, chemin faisant, j'ai essayé effectivement d'étudier ce livre pour lui-même en montrant qu'il n'était pas, il ne fallait pas tirer de l'ordre dans lequel ces livres nous avaient été transmis depuis l'Antiquité la conclusion que Pausanias n'aurait voyagé en Béotie qu'à la fin de sa longue...
Oui, c'est-à-dire ça se présente comme ça. C'est donc le livre 9, a priori.
Oui, a priori, on pense qu'il est un des derniers. Mais alors, j'ai tenté de montrer, et j'ai écrit un peu là-dessus, mais c'est surtout dans l'introduction de l'édition qui va bientôt paraître, que j'essaye de réunir tous les arguments pour montrer que ce livre 9, en réalité, il est issu d'un voyage... ou de plusieurs voyages qui se sont faits dans la foulée de l'Attique. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ce livre neuf toutes les caractéristiques, je dirais, j'ajoute, tous les défauts aussi, parce qu'il y a longtemps qu'on a remarqué que l'Attique était encore l'œuvre d'un débutant, dans la périégèse, si vous voulez. Quand on compare, par exemple, le livre 1, qui a un sujet évidemment magnifique, Athènes, l'Acropole, etc. Mais la description de l'Attique est extrêmement peu systématique. Et si vous comparez ça avec certains livres péloponnésiens, et notamment le chef-d'œuvre, d'une certaine façon, qui est, du point de vue de la méthode, le livre 8 sur l'Arcadie, au cœur du Péloponnèse, vous voyez qu'il y a eu un progrès indéniable dans la méthode, dans la description, dans la précision, qui ne se retrouve nullement, alors que, normalement, si le livre 9 était à sa place, on devrait retrouver là exactement les mêmes caractéristiques que dans ce livre 8 de l'Arcadie. Or, ça n'est absolument pas le cas. La composition telle qu'elle nous a été transmise, c'est l'effet d'un éditeur, sinon de Pausanias lui-même, un arrangement qui en vaut un autre. De toute façon, quand vous quittez Athènes, vous avez deux possibilités. Ou bien vous allez vers le Péloponnèse, ou vous allez vers la Béotie. On a, pour des raisons qui nous échappent en partie, préféré mettre à la suite du livre 1 la région de Corinthe, de l'Argolide, etc., la Laconie et tout le Péloponnèse, et puis de revenir ensuite, alors qu'il y a un saut en réalité. Mais je crois pour montrer qu'il y a un itinéraire tout à fait naturel qui va de l'Attique vers la Béotie, dans la foulée. C'est le même Pausanias, encore assez peu expérimenté, qui fait cette description. Il n'empêche que c'est évidemment un livre extrêmement précieux pour la connaissance de la Béotie, mais avec des lacunes, des maladresses qui sont, à mes yeux, évidentes. Et je ne jette pas la pierre à Pausanias, ça n'aurait aucun sens. Il vaut mieux en être conscient.
Alors, ça sera publié quand
Ça, c'est une question à ne pas poser, évidemment.
D'accord. Nous ne la poserons
non,
pas.
Mais posez-la
quand même.
Ça fait
quand même longtemps que vous travaillez sur la question.
Absolument. Et d'aucuns me le reprochent, bien entendu. Mais j'ai travaillé beaucoup d'autres choses. Des circonstances m'ont obligé à faire ce qui n'était pas nécessairement dans mes plans. Mais pour moi, maintenant, c'est une priorité, si vous voulez. Voilà la seule réponse sensée que je puisse vous faire. Je veux absolument publier dans les meilleurs délais cette édition qui devrait rendre service à certains, puisque une traduction, un commentaire sont indispensables aujourd'hui pour aborder une œuvre comme celle-là.
On aura compris que vous aviez quand même un côté Sherlock Holmes de Nick Knopfler, c'est-à-dire que vous voyez des indices que personne ne voit et qui conduisent à d'autres vérités. Et je veux dire que c'est un des aspects parmi les plus palpitants, évidemment, des cours que vous avez donnés au Collège de France. Et cet effet de surprise aussi que provoque la relecture de certains documents. Mais alors, vous venez d'écrire quelque chose qui, a priori, n'a rien à voir avec la Grèce antique. Vous avez publié un livre qui s'intitule « La comtesse de Noailles, vous êtes en Monsieur Rilke, dans mon bureau de poste », sous-titré « Autour d'une rencontre occultée en Pays de Vaud, et toi, 1921 ». Et c'est paru chez Slatkin, donc à Genève.
Et il est vrai qu'on ne m'attendait pas du tout dans ce domaine, et je ne prétends en aucune façon être devenu, si peu que ce soit, un spécialiste de la littérature française ou allemande, et encore moins du début du XXe siècle. J'ai voulu tirer au clair, dans la mesure du possible, un épisode familial, entre guillemets, qui appartenait à la famille de ma femme, ma belle famille, où on racontait, et mon beau-père qui était libraire, et un homme très cultivé dans le domaine littéraire, qui avait connu tous les auteurs, notamment suisses, français, les peintres aussi du XXe siècle. Et il racontait volontiers, tout en étant un peu consterné, que sa tante, qui était postière dans un petit village de la côte vaudoise, si vous voulez, à une vingtaine de kilomètres de Lausanne, en direction de Genève. Dans ce village d'Étoin, qui était la patrie, non pas de Narcis, mais le lieu d'origine de cette famille Bûcher, cette postière avait eu, tout par l'occasion, de rencontrer le grand poète Rainer Maria Rilke lors d'un séjour que celui-ci avait fait à Étoin en 1921. Il était arrivé en Suisse après la guerre de 14, enfin la fin de la guerre, et il s'apprêtait en réalité à aller s'installer dans un endroit un peu magique, très sévère, des Alpes valaisannes, un endroit que Valéry a visité en 1924, et Paul Valéry écrit que c'était un endroit qui lui a paru, lui qui était assez mondain, parisien, lui a paru d'une sévérité, d'une tristesse incommensurable. Mais Rilke s'était enfermé en quelque sorte pendant un certain temps dans cette vallée. Avant, il y a eu cette étape que les biographes ont un peu escamotée, parce que c'est une étape qui avait été courte, très brève, un mois, six semaines, entre la Suisse alémanique et le Valais. Et on l'avait considéré comme une période un peu morne, un peu solitaire, où rien ne s'était passé. Mais alors, ce beau-père nous racontait que la postière avait fréquenté, et pour cause, puisque Rilke était un grand épistolier. Il allait tous les jours à la poste. Et recevait du courrier de toute l'Europe, qu'elle l'avait rencontré et qu'elle avait ensuite, au moment où il est parti, continué une correspondance avec ce grand poète. Et mon beau-père avait demandé à sa tante, dans les années 30, juste avant la guerre de 1940, il lui avait demandé « Est-ce que je pourrais voir les lettres que t'as écrites, Rilke ?» Et la postière lui répond « Garde-t-on les lettres d'un homme ?» Garde-t-on les lettres d'un homme ?» Parce que c'était une
toute une mentalité.
Oui, absolument, c'est très révélateur d'une mentalité protestante, très rigoureuse.
Début de siècle.
Oui, bien sûr. Ce qui d'ailleurs ne prouve pas qu'elle l'avait. Elle avait déjà alors détruit les lettres en question, mais évidemment, le neveu de la postière était consterné, parce que lui aurait souhaité, il était grand amateur de Paul Valéry, il avait lu tous les poètes, il aurait été évidemment très intéressé d'avoir ces lettres. Voilà ce qu'on savait. Mais j'ai essayé, par une espèce de, comment dire, de piété filiale, et d'en savoir plus. Et à défaut de retrouver les lettres de Rilke à la postière, j'ai retrouvé les lettres de la postière Donc, c'était tout un versant de l'histoire qui se révélait parce que, et là, bon, j'ai profité d'une situation générale, c'est que toute la correspondance de Rilke depuis la Suisse a été heureusement réunie, et par lui déjà dans les derniers mois de sa vie, pour être déposée, en fin de compte, dans les années 50, dans un grand dépôt d'archives de la Bibliothèque nationale suisse qui s'appelle les Archives littéraires suisses. Personne n'avait songé à aller chercher ces lettres d'une postière parce que c'était évidemment un personnage tout à fait humble et qui paraissait sans aucun intérêt. Donc j'ai retrouvé ces lettres, ça a été le point de départ de l'étude et, sans vouloir allonger, vous m'interromprez quand vous voudrez, un des points centraux de cette correspondance, pour moi, et qui m'a demandé le plus de travail pour essayer de reconstituer les choses, c'est que une des lettres, écrite dans le village même d'Étoy, en tant que postière, à Rilke, qui se trouvait en séjour, donc il n'était pas encore dans son refuge de museau, elle lui demande de revenir au plus vite au bureau de poste pour chercher la comtesse Anna de Noailles. Donc, Anna de Noailles, figure aujourd'hui un peu oubliée, mais d'une star de la poésie. Hein, Anna de Noailles, qui a connu une heure de gloire incroyable, aujourd'hui bien oubliée, dans les premières décennies du XXe siècle.
Et qui tenait un salon très important.
Qui tenait un salon extraordinaire, et qui justement, en ce mois de juin 1921, est au fait de sa carrière, puisque, à défaut d'être honoré par l'Académie française, c'était pas encore de saison, hein, en 1921. Même si elle avait fait quelques démarches dans ce sens, et son ami Maurice Barrès essayait bien de travailler dans ce sens, elle avait été honorée par l'Académie de langue et littérature française de Bruxelles, ce qui était déjà un honneur considérable. Dans ce mois de juin, et on constate par une lettre écrite par cette postière au poète Rilke, qu'elle était en réalité, elle était passée un peu en coup de vent, au point qu'on peut mettre en doute, même on pourrait mettre en doute, ce n'est pas mon cas, qu'elle fut réellement passée à ce moment-là.
Mais c'était un peu normal, on comprend ça, parce que au fond, Rilke est une gloire importante, Anna de Noailles, qui est elle-même une gloire importante, oui, est entourée d'hommes qui sont d'ailleurs plus ou moins tous à ses pieds. Elle a besoin d'avoir à peu près toute la littérature européenne à son chevet.
Oui. Ça n'explique pas encore entièrement pourquoi elle peut faire un déplacement qui, certes, était faisable, mais dans un moment particulièrement dense de sa vie, où elle est sollicitée par tous les médias. Et il faut tout de même ajouter, ce qui est essentiel, c'est qu'ils s'étaient rencontrés. Hein, ils s'étaient rencontrés une première fois à Paris, dans un salon de 1909, et ça avait été pour Rilke une rencontre mémorable. Il avait vu apparaître cette véritable déesse avec des chapeaux immenses qui ne passaient pas la porte.
Cela dit, elle était quand même tentaculaire, elle se coupait absolument.
Il a voulu se protéger d'elle. Alors, elle a mérité. Une de ses bonnes amies l'appelait le Vésuve parce qu'elle n'en finissait pas de jaillir. Elle avait une verve littéraire que tous les témoins s'accordent à dire exceptionnel. Mais aujourd'hui, on ne peut plus en juger, évidemment, parce que même ce qu'elle écrit, qu'on aime ou n'aime pas...
Ça ressemble à du Sully Prudhomme,
elle a été marquée par Sully Prudhomme, mais enfin, elle a quand même une sensibilité féminine qui peut-être un jour la remettront à l'honneur.
Avait une sensibilité féminine intéressante, c'est qu'elle a été une des fondatrices de ce qui deviendra ensuite le prix Femina, par exemple.
Oui. Mais vous savez, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'elle n'est pas, en fait, reconnue par les féministes. Parce qu'il y a une espèce de méfiance à son égard du fait qu'elle appartient à la haute société, elle est d'origine princière grecque ou roumaine, et puis elle épouse un des principaux noms de l'aristocratie française. Et évidemment, ça n'amène pas en odeur de...
On ne peut pas faire plus français mais, que Noailles.
Non, de Noailles, on ne peut pas. Mais c'est une femme qui avait des penchants socialistes indéniables. Elle, en tout cas, elle se considérait comme grecque, Évidemment, ça me la rend sympathique.
Évidemment.
Et même si elle n'a jamais mis les pieds en Grèce. Quand elle a voulu partir en Grèce, elle était un peu malade. Et au lieu de partir pour la Grèce, elle s'est installée dans une célèbre clinique des rives du Léman, où d'ailleurs, Rilke, par une étrange coïncidence, mourra en 1926. Donc il y a un chassé-croisé aussi de topographie.
Mais alors, qu'est-ce qu'elle a voulu faire en voyant, en venant voir Rilke?
Alors, c'est...
Denis Knopfler, il y a quand même raison.
Je fais une hypothèse. Je fais une hypothèse parce qu'il faut bien tâcher d'expliquer, quitte à ce que cette hypothèse soit réfutée par des spécialistes de la littérature française, mais je leur fournis les éléments, hein, à eux de voir. Je pense que en juin 1921, malgré tous ses succès littéraires, elle est harcelée par ce qu'on appelle les dadaïstes, par les surréalistes,
qui lui sont
très hostiles. Et vous savez qu'à cette époque, quelques semaines avant, les André Breton, les surréalistes, font un véritable procès à son très cher ami Maurice Barrès. Et je pense qu'elle a pu penser qu'elle trouverait en Rilke, qui était lui aussi quand même un amoureux de la Grèce, de toute la tradition poétique, classique et romantique, qu'elle trouverait quelqu'un qui, mieux que à Paris, parce qu'elle était un peu en bisbille avec André Gide ou d'autres, elle trouverait quelqu'un qui pourrait la réconforter, qui pourrait lui donner des conseils entre égaux, si vous voulez, et plus ou moins hostiles à ce mouvement dadaïste qui était, il faut bien le dire, très irrespectueux.
Hein, mais oui, irrespectueux. Vous citez René Crevel qui lui disait « On ne fait plus de vers aujourd'hui, madame
voilà. !» Oui, c'est Crevel était un garçon qui semble avait beaucoup de charme, semble-t-il.
Ah oui, mais qui était un grand écrivain.
Qui était d'une impertinence totale. Une impertinence totale. Elle était, tout en ayant des succès, des prix, elle est reconnue partout, mais... Il y a une terrible critique dont elle sent la menace, qu'il est frais à juste titre, et elle vient chercher un certain réconfort chez quelqu'un qu'elle avait vu, avec qui, et qui, Rilke, il faut le dire, parce que ça, les biographes l'ont complètement évacué, Rilke a toujours eu une énorme admiration pour elle. Ce qui est un bon point pour elle, parce que c'était quand même un bon juge.
Oui, mais il n'avait pas envie de la fréquenter. Hein,
non, parce qu'il la voyait, il la voyait comme un peu dangereuse, un peu accaparante et très égocentrique.
C'était une pieuvre.
Elle est épouvantablement égocentrique et narcissique. On retrouve Narcisse. une figure néanmoins attachante. Probablement insupportable, mais attachante.
Alors, donc, à cette époque, Rilke est avec... Alors, Baladine Klossowska, la mère de Klossowski de Balthus.
De Pierre Klossowski et du peintre Balthus. Femme certainement
très intelligente.
Très cultivée, intelligente aussi. C'est une liaison quasi officielle. Et alors, l'intérêt de ce récit, c'est qu'on voit que Rilke, contrairement à ce qu'on a dit, n'a pas été du tout isolé dans ce village. Des femmes sont venues le voir, et une princesse autrichienne qui était son amie depuis longtemps, figure aussi très attachante, qui a laissé un récit de toute la vie de Rilke à travers ce qu'elle avait vu et de ce séjour à Étoile. On s'aperçoit donc qu'il y a eu dans ce village pendant 6 semaines un va-et-vient assez étonnant. De figures, sans parler d'une correspondance européenne. Depuis là, il écrit notamment à Gide. Il découvre en même temps Paul Valéry. Il lit au fond du jardin à la recherche du temps perdu. Et c'est un intense moment de découverte littéraire. Et Rilke est resté très attaché jusqu'à la fin. À ces figures.
Vous donnez des photos, c'est très intéressant dans votre livre. On voit vraiment le lieu, c'est très beau.
J'ai voulu, et là, si vous voulez, je pense qu'on retrouve un peu l'archéologue, j'ai voulu montrer les lieux, qu'il y avait une réalité géographique, topographique.
Ce que vous dites, par exemple, sur le côté un peu austère de l'endroit où Rilke va se retrouver, on le voit très bien dans la photo que vous donnez, par exemple.
Oui, j'ai voulu, si vous voulez...
Elle était très jolie, cette poste.
Montrer les pièces. Oui, parce que c'était une maison privée. C'était une tradition, d'ailleurs, en Suisse, probablement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, que dans les villages, la poste appartenait à un privé qui la mettait à la disposition du service postal. Donc, c'était peut-être pas un cas particulier, mais là, on a évidemment un métier qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on constate aujourd'hui. Une postière qui vit au milieu de son jardin, qui accueille ses clients, et notamment le poète avec des roses cueillies dans son jardin, qui est dans un monde totalement
qui lui envoie des poèmes.
Et qui lui envoie des poèmes. Et qui lui envoie un petit poème, il fallait oser le faire. Parce que c'était une femme qui n'avait pas un talent considérable, mais qui savait, qui avait une bonne culture de base, qui savait écrire, qui avait une très jolie écriture. Ça, j'ai aussi tenu à montrer des documents qui prouvent qu'elle avait une espèce de facilité dans l'écriture, dans les deux sens du terme. Elle écrivait avec naturel et une certaine aisance. Des choses simples. C'était une femme simple. C'est pourquoi, d'ailleurs, pour revenir et peut-être conclure là-dessus, c'est que, à mes yeux, ce témoignage de la postière, il est, sauf jusqu'à preuve du contraire, il est irrécusable. Parce que tout ce que je perçois d'elle à travers les documents me montre une femme d'une honnêteté totale. Et d'ailleurs, une employée d'abord des postes.
Et une lectrice de Anna de Noailles.
Et une lectrice.
Parce que Rilke lui avait donné.
Il lui avait prêté le livre.
Le livre.
Alors, peut-être que certains spécialistes vont dire, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas prendre cette lettre au second degré? Est-ce que ça n'est pas en réalité, elle ne cherche pas à faire venir Rilke à la poste par cette espèce de hameçon? Mais ça me paraît, à la réflexion, assez difficile à admettre. Donc, je considère. Et surtout, je pense que si on veut contester le passage d'Anna de Noailles, il faudra que la comtesse ait un alibi. C'est-à-dire que j'ai cherché, parce que je n'ai pas voulu accepter cette version les yeux fermés, j'ai cherché s'il y avait, dans ce mois de juin 1921, dans les sources parisiennes, autour de la comtesse de Noailles, à travers des ouvrages imprimés, des sources manuscrites, s'il y avait l'indication qu'elle se serait trouvée à Paris le jour même, ce qui serait vraiment, au sens propre, un alibi. Aujourd'hui, je n'ai rien trouvé dans ce sens, et il y a 4 ou 5 jours de sa vie, au mois de juin 1921, qui sont un mystère, et donc qui autorisent, encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, de penser qu'elle a fait ce voyage.
Mais votre argument a l'air tout à fait probant, parce que, en effet, c'est une femme qui a 45 ans à l'époque.
Oui, elle est à un tournant.
Elle est à un tournant de sa vie.
Elle est un peu fragile.
Elle est à la fois reconnue et en même temps complètement déstabilisée. Elle a besoin, en effet, de voir des gens sur lesquels elle peut appuyer, en tout cas.
Plus
ça...
que sur ses collègues et confrères parisiens.
Oui.
Parce qu'elle les connaît trop bien. Et ce sont des gens qui manœuvrent, qui dans les salons ont une position qui n'est pas claire. Elle voit dans Rilke le poète par excellence qui est dans sa retirée.
Qui n'est pas à sa botte en plus.
Qui n'est pas à sa botte, mais qui l'admire, elle le sait,
oui.
Et qui est indépendant. Est indépendant, est une, en même temps une autorité reconnue. C'est donc une possibilité.
Denis Knopfler, les enquêtes dans lesquelles vous vous lancez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Écoutez, je crois, grâce à vous, que j'ai pu faire le tour déjà de pas mal de choses. Et je pense que ce que je vous ai dit a de quoi m'occuper pendant quelques temps encore. Encore une fois, la BOC reste un de mes sujets de prédilection, avec Pausanias en première ligne. Il y a le B des inscriptions à publier. J'en ai trouvé une complètement oubliée dans les réserves du musée des Rectories, qui évoque le richissime sophiste, philosophe et homme politique de l'époque d'Adrien, justement, qui s'appelait Hérodaticus. J'ai beaucoup de choses en retard. Et je ne crains pas, en tout cas, tant que j'aurai la force,
de manquer de travail.
De manquer de travail, non. Mais la question, c'est d'aboutir, d'arriver à faire la synthèse qui convient, et de la mettre au point et ensuite de la publier comme il convient.
Denis Knoepfler, merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien.
Merci à vous.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Denis Knoepfler, professeur honoraire, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Bel été à tous, à l'écoute de France Culture. Chers auditeurs, en 2002, Laure Adler, alors directrice de France Culture, m'a demandé de transformer de simples retransmissions diffusées pendant la nuit en une véritable série d'émissions qui aurait sa place parmi les émissions quotidiennes de la journée. C'est ainsi que j'ai créé l'Éloge du savoir sous la forme que vous connaissez. Aujourd'hui, cette émission est la dernière que j'enregistre avant mon départ. J'ai décidé en effet de prendre ma retraite. Je tiens à remercier le Collège de France, ce haut lieu de la générosité savante, ouvert à tous ceux qui aiment partager les aventures de la recherche de notre temps. Je remercie tous les chargés de réalisation avec lesquels j'ai travaillé et dont le professionnalisme et le raffinement forcent l'estime, ainsi que tous ceux qui ont collaboré aux émissions que j'ai produites sur cette antenne et qui sont devenus des amis au fil du temps. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs. L'amour que vous portez à la culture, la diversité de vos curiosités, humaines et intellectuelles, ont été la raison d'être de mon travail. Je vous souhaite, en toute chose, le meilleur.